Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est le débat de midi. Et aujourd'hui, aucun de ceux dont on va parler ne pourra s'exprimer alors qu'on aimerait bien parfois savoir ce qu'ils ont dans la tête. J'ai nommé nos amis les animaux de compagnie. Enfin, nos amis, il y en a qui ne sont pas de cet avis hein, et détestent les chiens, les chats ou ne comprennent pas la passion poisson qui tourne en rond dans un aquarium. De 30 millions il y a 50 ans, ils sont passés à 80 millions aujourd'hui en France. La moitié des foyers a un animal de compagnie. Les chiens et chats sont les plus emblématiques et parmi les plus répandus, derrière les poules ou les poissons par exemple. Et ce sont aussi les plus aimés pour l'apaisement, la présence et la fidélité qu'ils apportent quoi qu'il arrive. Abandonnés aussi particulièrement en ce moment, l'été, c'est une réalité. Les refuges saturent pendant qu'on continue d'acheter des races à la mode qu'on pourra instagrammer à gogo ou promener en poussette. Oui, ça arrive. Alors n'y a-t-il pas un problème quelque part? Et puis, philosophiquement, d'où vient cette volonté de domestication? Et à quoi bon prendre un animal si on ne peut pas s'en occuper? Sans oublier les conflits de voisinage, les impacts écologiques et les avancées contre la maltraitance. La question ne plaît pas à tout le monde et c'est justement pour ça que je la pose. A-t-on trop d'animaux de compagnie?
Camille Crenier, le débat de midi sur France Inter.
Ce sont des labradors.
Il est où le cucu? Elle est où la tétette?
C'est pas forcément nous qui choisissons le chien. C'est vraiment le chien qui vient vers nous et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe où on se dit c'est lui et pas nous.
Ah, j'oubliais. Son coin-coin. Il dort avec. Tu lui mets dans son panier.
Ouais. On va commencer avec un cochon d'Inde, un rat, un chien, un chat, etc. Et puis aujourd'hui, on arrive à près de 50 animaux. C'est une belle histoire d'amour.
Attends. Choupette.
Mais c'est un chat qui parle.
Oh putain, tu fais super bien le chat.
Merci.
Non mais vraiment, je pense vraiment.
Quatre invités à qui je vais relayer comme tous les jours vos messages, vos questions, vos témoignages que vous pouvez envoyer grâce à l'application France Inter, la petite fenêtre réagir hein, sur le téléphone ou directement sur la page du débat de midi. À distance des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux qu'on remercie, Mai Chan Cook, bonjour.
Enchantée.
Vous êtes responsable des campagnes d'influence de l'agence YLG, qui est spécialiste des animaux de compagnie. On va parler avec vous notamment des petfluencers, ces animaux stars des réseaux sociaux, dont votre chien Malcolm, un Akita américain. Il n'est pas avec vous là.
Il n'est pas à Bordeaux avec moi là sur les studios, mais.
Il n'est pas très loin. Autour de moi, je salue Angélique James, bonjour.
Bonjour.
Directrice du PRODAF, le syndicat des professionnels de l'animal familier. Bonjour à Valérie Chansigaud.
Bonjour.
Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement. Vous avez écrit Histoire de la domestication animale, publié en 2020 chez Delachaux et Niesley. Et enfin, Sandrine Veltman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la protection animale à la SPA, la société protectrice des animaux. D'ailleurs, combien d'animaux à l'heure où on se parle dans les refuges?
À l'heure où on se parle dans les refuges, 8744 animaux. Il faut savoir qu'une capacité normalement raisonnable et quasiment normalement raisonnable est de 7500 animaux. Ça veut dire qu'on est saturé déjà. Alors effectivement, on a toujours le droit d'avoir pendant deux mois une augmentation hein, de notre capacité maximale. Mais là, nous tirons la sonnette d'alarme parce que nous ne sommes que le 6 juillet et que du coup, eh bien, effectivement, on voit bien que dès le début de l'été, on est déjà en situation de tension très très forte.
Quelles espèces particulièrement?
Chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie. Il faut savoir que les nouveaux animaux de compagnie nous arrivent maintenant de plus en plus puisque nous avons eu 56% d'augmentation du nombre d'animaux abandonnés puisque nous sommes des refuges, les animaux ne sont abandonnés, ce qui représente quand même 2700 NAC aujourd'hui.
Les NAC, c'est quoi? C'est donc les serpents, les furets, les lézards
Pour avoir un serpent, il faut avoir un certificat de capacité, donc ce n'est pas possible.
Donc quels animaux?
Les furets, les lapins, les animaux de ferme, les hamsters et tout ça.
Angélique James, les professionnels que vous représentez vendent des animaux d'élevage uniquement?
Alors en animalerie, oui, ce sont des éleveurs français. Nos animaux viennent d'élevage français. Ils sont stérilisés, pucés, etc. Et c'est vrai qu'on on a souvent à discuter avec la SPA à ce niveau. Ça fait des années que les mentalités ont évolué et aujourd'hui, enfin, on parle souvent d'achat compulsif, etc. Mais il y a très peu de, enfin, personne n'achète n'a une session d'animaux entre 1000 et 3000 euros pour l'abandonner.
Et comment vous regardez justement vous les vendeurs d'animaux cette situation qui se reproduit chaque année, donc des achats, des abandons énormes d'un côté et des achats de l'autre, alors qu'il y a des animaux qui des fois attendent depuis des années de pouvoir être
oui,
adoptés.
Oui, mais est-ce que vous êtes déjà allé dans un refuge, dans une animalerie ou chez un éleveur? Ce sont des races particulières, des animaux de race. Et en refuge, vous n'en avez
pas. Et alors, on peut pas aimer autant un bâtard,
mais bien sûr, tout à fait. Mais quand on parle d'abandon, je n'ai pas vu d'animaux d'animalerie issus de l'animalerie dans les refuges, en tout cas.
Alors, effectivement, on a du mal à tracer cette question-là, bien que les animaux soient identifiés. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que la loi qui vient de passer est une loi de protection animale qui a permis, effectivement, de tracer la question sur la fin de la vente en animalerie des chiens et des chats à partir de 2024. Mais là, on vient de tracer l'entrée, en fait, en animalerie. Effectivement, les gens pourront toujours, s'ils veulent un chien de race, aller se rendre chez un éleveur. La vraie question qui se pose, c'est s'ils ne viennent pas dans les refuges, je ne peux pas penser qu'on n'abandonne pas non plus un chien de race. Pourquoi ? Parce qu'on l'a payé, en fait. Et donc, quand on vient abandonner un chien en refuge, finalement, on vient et on paye 80 euros le frais d'abandon, puisque nous, derrière, on va le prendre beaucoup d'argent pour le remettre
en Les gens viennent vous voir, disent, en fait, j'y arrive plus, je peux plus m'en occuper, je vous le laisse.
Il faut savoir que l'abandon, c'est un délit en France, sauf s'il est en refuge. D'accord ? Si vous abandonnez votre chien et que vous l'attachez dans la forêt,
comme ça va malheureusement arriver cet été, ouais.
Vous êtes susceptible d'avoir un emprisonnement de 3 ans et de 45 000 euros d'amende, ce qui évidemment fait réfléchir. La question, pourquoi est-ce que l'abandon en refuge n'est pas un délit ? Tout simplement parce que là, on va pouvoir s'occuper et comprendre les raisons de l'abandon. Évidemment, tout faire pour que la personne n'abandonne pas, parce qu'il y a plein de solutions. Et donc, effectivement, cette question n'est pas un délit. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, Angélique, c'est juste sur cette question-là, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les animaux qui ont été achetés soit chez un éleveur, soit en animalerie, ne se retrouvent pas sur le bon coin? Cette question-là, elle est très difficilement traçable. Or, cette question de l'encadrement un peu sur les réseaux sociaux, il me paraît importante.
On va en parler justement de l'encadrement. Moi, je voulais vous demander à Maïtia Nkoub, vous qui êtes à Bordeaux, donc à distance, votre Malcolm, votre chien, vous l'avez eu quand et comment? Vous l'avez acheté de race?
Alors exactement, mon chien vient d'un élevage, c'est un élevage que j'ai sélectionné en amont, je me suis renseignée sur la race, ce qui est hyper important de faire justement si on a envie d'acheter un chien de race. Je soutiens les éleveurs qui sont respectueux, qui travaillent dans l'éthique, plutôt des élevages finalement familiaux, et je suis complètement contre, par contre, la vente en salon et en animalerie, et c'est une très bonne chose que la vente d'animaux en animalerie... soit bientôt terminé.
Ouais. Mais pourquoi, par exemple, ne pas avoir adopté un chien qui, aujourd'hui, encore une fois, est dans un refuge?
Parce que j'ai toujours aimé cette race de l'Akita américain. Aujourd'hui, les Akita américains sont des chiens très complexes. Et pour une première, possession, je ne pensais pas pouvoir partir sur un chien de refuge qui a un passif, etc. Et donc, en fait, selon moi, quand on va vraiment se renseigner en amont sur une race, qu'on est conscient de tout ça, qu'on visite un élevage, les structures, le fonctionnement, etc. C'est une adoption, enfin un achat, réussi et réfléchi.
Valérie Chancy.
Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Voilà, exactement.
Valérie Chancy.
Je suis allée à l'autre bout de la France
pour aller le chercher. Officiellement, depuis seulement 2015, les animaux ne sont plus considérés en France comme un bien meuble, mais un être vivant doué de sensibilité. Est-ce que pour autant, il n'y a pas encore une forme de consumérisme de l'animal ?
Il est clair que les animaux qu'on va choisir en fonction de leur apparence et pas, j'ai aimé l'expression d'utiliser les chiens dans les chenilles étaient les chiens abandonnés avaient un passif. Moi, je sais pas trop ce que ça signifie parce que les animaux qu'on peut recueillir ont une histoire qui n'est pas forcément facile d'abord et avant tout pour eux, mais c'est pas forcément un passif négatif qu'il faudrait fuir à tout prix. Au contraire, ça participe à l'identité, à la personnalité de ces animaux. C'est pas forcément négatif. Cette passion pour les races qui naît vraiment au 19e siècle. Avant, on peut considérer qu'il n'y a pas vraiment de race, en tout cas dans le sens moderne du terme, est vraiment lié à des modèles d'ostentation. C'est-à-dire on marque son rang, sa place dans la société, par un animal que d'autres personnes ne pourraient pas acquérir. C'est vraiment un modèle ostentatoire. C'est pas une consommation, parce que derrière le mot consommation, on met tout et n'importe quoi. C'est vraiment lié à l'identité.
Il y a une forme de hiérarchie, finalement.
Ah, complètement. Et ça se voit, par exemple, dans les élevages d'animaux. Par exemple, les élevages de chiens et les concours de chiens sont plutôt réservés à la grande bourgeoisie et l'aristocratie au 19e. Mais il y a des concours qui sont faits et qui sont beaucoup plus, le fait de gens du peuple, d'ouvriers, notamment les concours de pigeons ou les concours de lapins, parce que avoir un chenil quand on n'est pas très riche, c'est absolument impossible au 19e. Par contre, avoir une volière avec des pigeons, on peut l'installer sur son toit. Et donc, il y a toute une gradation en fonction des classes sociales qui font que certains animaux sont privilégiés et pas d'autres.
Angélique James, pour réagir à ça, aujourd'hui, il y a certaines races qui ont beaucoup, beaucoup plus de succès que d'autres aujourd'hui.
Oui, mais ça a toujours été comme ça, en fait. Ça, on ne pourra rien y changer, en fait. Il faut surtout trouver des solutions, effectivement, pour lutter contre l'abandon, mais on ne peut pas aller contre l'être humain qui a toujours voulu une race particulière.
Alors, qui sont les best-sellers aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est beaucoup les Shiba, les Chihuahuas, les Carlins, les Bulldogs français. Et c'est vrai que ce sont pas des chiens que nous trouvons dans les refuges. Clairement, un Chihuahua dans un refuge, combien même ça pourrait arriver, il va pas rester très longtemps dans le refuge. Donc, parce que c'est des races recherchées, parce que aujourd'hui les gens travaillent, c'est des animaux faits aussi pour la ville. Donc voilà, et donc du coup il faut trouver des solutions effectivement pour lutter contre l'abandon, pour que les animaux soient stérilisés, soient pucés, soient.
Mais est-ce que lutter contre l'abandon, ça ne passerait pas par peut-être imposer, alors je lance la question comme ça, mais imposer aux gens d'abord d'adopter des animaux qui sont dans les refuges plutôt que d'aller en acheter. Alors vous, ça ferait pas vos affaires, mais.
Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. On peut avoir envie d'un chien de race et avoir envie d'un chien d'un refuge.
C'est-à-dire vider les refuges dans un premier temps et ensuite faire des achats.
Alors sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a des pays qui ont pris cette politique très ferme et qui a effectivement permis de vider les refuges. Évidemment, on n'est plus dans des questions de pays nordiques et de civilisation nordique. Je voudrais revenir sur deux choses.
Vous, pardon, attendez, mais Sandrine Veltman, vous qui êtes directement concernée à la SPA, vous pourriez être d'accord avec ce... Aujourd'hui, il y aurait une loi qui dirait on vide d'abord tous les refuges, à condition évidemment que les gens ne les réabandonnent pas 3 mois, 6 mois plus tard, et ensuite les gens pourront acheter.
La question, c'est que je pense que ça ne réglerait pas l'abandon. De toute façon, on a aussi des animaux qui viennent en refuge et qui sont réabandonnés parfois des années entières. Pourquoi ? Parce que un animal, ça a une espérance de vie suffisamment longue pour que des accidents de vie puissent arriver, d'abord, tout simplement. Et puis, un animal, ça a des besoins particuliers, quels qu'ils soient. Et donc, à un moment, il faut que la famille qui est en face et qui accueille l'animal soit en mesure de répondre à ses problèmes particuliers. Pourquoi est-ce que des fois on a des abandons? Simplement parce que les conditions de vie évoluent, parce que les enfants grandissent, parce que etc. Et que du coup, eh ben oui, l'animal, le comportement de l'animal finit par poser problème. Et là où, effectivement, j'apporterai un complément à ce que vous avez dit, Angélique, c'est que nous, nos refuges aujourd'hui, ils débordent de chiens qu'on appelle communément chiens de travail, c'est-à-dire les malinois, les bergers,
les
etc.
Les rottweilers.
Et donc, c'est très compliqué pour nous parce que vous imaginez bien qu'un malinois qui a eu finalement des dérives comportementales suite à une éducation qui n'a pas été complètement parfaite. Il faut du temps pour le retaper, en fait. Il faut du temps pour le rééduquer. Évidemment, quand on s'agit d'un chihuahua, c'est plus simple, finalement, parce que la race, évidemment, suppose moins de travail. Ces chiens-là, ce qui sont des chiens de travail, sont aujourd'hui des races à la mode aussi.
Valérie Chansigo, justement, sur le côté travail, à partir de quand la mutation s'est faite entre avoir un animal pour le travail et ensuite un animal pour le plaisir ?
Ah, c'est très compliqué à répondre. On sait que les premières traces historiques de domestication du loup qui a donné le chien, en fait, tous les chiens, quels qu'ils soient, du plus petit au plus grand, viennent d'un seul et même ancêtre, à savoir le loup gris.
Donc le chihuahua vient du loup.
Oui, exactement. Le dog aussi. Les premières indications claires dans des restes qu'on a à peu près de 10 à 12 000 ans au Proche-Orient montrent être déjà des chiens utilisés dans à la chasse. C'est-à-dire, s'il y a eu, enfin, la domestication a reposé d'abord sur l'utilisation des chiens comme manière d'optimiser la chasse. Et on sait que le succès d'Homo sapiens à l'échelle de la planète, et sans doute la disparition de l'homme néandertal, découle peut-être de cette capacité à être de meilleurs chasseurs grâce aux chiens. Donc il y a toujours eu des chiens utilisés pour des besoins humains. Qu'ils soient de travail ou de loisirs, en fait, c'est pas très différent.
Un message d'Irène sur le mail du débat de midi. Elle nous écrit « On parle très peu des autres animaux, les cochons, les vaches, les chevaux, les poules, les canards. Pourquoi une telle hiérarchie ?» Elle l'écrit en gros dans nos considérations affectives. Mai Shan Kung, pourquoi, effectivement, il n'y aurait pas aujourd'hui une poule influenceuse? Tiens, enfin, je ne veux pas lancer le mouvement, mais soyons fous.
Il y a plusieurs animaux différents, en effet, qui sont très très suivis sur les réseaux sociaux. Du moment où ça me pose pas de problème, moi, c'est juste si les espèces sont pas forcément exotiques ou détenues dans de bonnes conditions.
Ouais. Pourquoi, en fait, je vous repose la question autrement, pourquoi est-ce que c'est souvent les chiens et les chats qui ont le plus de succès? Ça vient d'où, ça?
Bah, c'est quand même les animaux de compagnie numéro un. Donc c'est vrai que dans les appartements, les maisons, c'est quand même des animaux qui sont plus aptes à vivre dans une vie.
Alors, simplement pour préciser, ce qui est intéressant, d'où l'intérêt de l'histoire, ça permet de replacer ces problèmes sur des dynamiques différentes. Par exemple, la domestication du poulet repose très probablement sur deux motivations. L'un qui était disposé d'animaux de combat, l'autre d'animaux utilisés dans les sacrifices. C'est quelque chose qui est abondamment utilisé. Il y a sans doute une troisième raison. C'est tout ce qui est la volaille ornementale. Au Japon, par exemple, il y avait deux types de poulets. Jusqu'au XVIIIe siècle, on ne mange pas de poulet, on ne mange pas d'œufs. Il y a des poulets utilisés dans des combats d'animaux et la volaille ornementale. Donc, en fait, cette séparation entre chat, chien, que l'on connaît aujourd'hui, et les autres animaux, c'est extrêmement fluctuant d'une époque à une autre et d'une culture à une autre.
Sandrine Weltmann, rapidement.
Rapidement, en fait, sur les 75 millions ou 80 millions d'animaux de compagnie que vous prévoyez tout à l'heure et que vous annonciez tout à l'heure, on est sur 15 millions de chats et 7 millions à 8 millions de chiens aujourd'hui. Donc on voit bien que le vrai top du sujet, c'est les 32 millions de poissons et les 12 millions de poules. Donc en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup des chats et des chiens parce que ça paraît l'être le plus sociable et celui qu'on emmène en vacances. Et voilà, c'est vrai qu'on emmène moins son poisson rouge. Et qu'il y a là une question de relation. Et en fait, la vraie question, c'est pas tellement y a-t-il trop d'animaux de compagnie, mais quelle relation sommes-nous prêts à voir avec ces animaux de compagnie?
Et Jacques nous écrit...
Et quelle vie on leur offre?
Et Jacques justement nous écrit là-dessus, j'aime trop les animaux, c'est pour ça que j'en ai pas. J'estime ne pas pouvoir leur offrir un cadre de vie digne d'un être vivant du monde animal. Voilà, ça résume. Allez, on parle animaux domestiques aujourd'hui dans le débat de midi avec un gros prisme, vous l'aurez compris, chien, chat. Émission préparée par Colin Gruel et Pénélope Tricard, réalisée par Théo Raison. Alexandre Chenet est à la technique et un peu de musique avec Arcade Fire.
Look out, kid, just your heart. You don't have to play the part they wrote for you. Just be true, there are things you could do that no one else on earth could ever do. But I can't teach you, I can't teach it to you. Look out, kid, trust your mind, but you can't trust it every time. You know it plays tricks on you, and it don't give a damn. Happy or you're sad, but if you've lost it, don't feel bad, 'cause it's alright to be sad. Shake things up.
Arcade Fire, Unconditional I Look Out Kid et Valentine Chedebois pour la programmation musicale.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche! Non! Tu la. Donne! Tu lâches! Donne! Viens là! Tu donnes! Viens!
Oh!
Viens là.
Quoi? Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler au chien, tu vois.
Il m'a pris mon poulet!
Non, il t'a pas pris ton poulet! Il s'est servi en poulet! Excuse-moi, je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà, il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous, c'est bien eux. Ou nous. Alors?
Quoi?
Ils sont arrivés sur Terre avant nous, jusqu'à preuve du contraire. Ils étaient là dès le début ou pas? Dès le début, hein?
C'est juste.
Donc, à la limite, toi, demande-lui l'autorisation si tu peux manger avec lui, si tu veux.
Alors, je suis pas sûr qu'il me réponde.
Voilà, extrait du film Problemos, sorti en 2017 avec notamment Éric Judor. D'ailleurs, pour faire écho à cet extrait, il y a Sandrine Veltman, depuis le début de l'année, l'Espagne, par exemple, qui considère les animaux de compagnie, donc dont les chiens, comme des membres de la famille à part entière.
Oui, alors de toute façon, on est évidemment sur des politiques qui sont générales. Nous sommes en France sur le coup de cette nouvelle loi qui a été une avancée majeure, hein, qui est la loi pour la protection des animaux et pour conforter le lien entre les animaux et les hommes. Et je trouve que c'est important de la citer dans son entièreté.
Votée en novembre dernier.
Exactement,
rappelle, ouais.
Dont on attend encore quelques décrets d'application. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qui est dit là, la SPA a sorti un film contre l'abandon, qui dit bien que effectivement, pour lutter contre l'abandon, il faut aussi se rappeler que, bien sûr, l'animal est source de désagréments, il peut vous piquer votre poulet, c'est une certitude, mais qu'au regard de 15 ans de vie qu'on risque de passer ensemble, puisque c'est à peu près l'espérance de vie moyenne d'un chien, eh bien, tout ça n'a rien de commun avec la relation qu'on va nouer. C'est pour ça que je parlais de relation tout à l'heure, parce qu'on ne peut penser l'animal de compagnie que si on le pense en termes de relation.
Alors justement, on parle souvent, en ce qui concerne le chien, de l'effet chien. Mai Chen Kung, vous êtes d'accord? Votre Malcolm, il vous fait de l'effet?
Exactement.
C'est-à-dire?
On a des liens très forts. C'est-à-dire que c'est mon chien avant de travailler avec lui, c'est mon animal, c'est un membre à part entière de la famille et c'est l'amour de ma vie, clairement.
C'est plus qu'un frère, un fils, c'est tout ça à la fois.
Comme je vous disais, c'est un membre à part entière de ma famille, Malcolm, et il est très important. Oui, oui.
Et Angélique James, il y a eu des études sur les bienfaits aussi bien sur la santé psychique
bien sûr,
que physique.
Par exemple, on travaillait beaucoup avec les EHPAD, etc. Pour les malades d'Alzheimer, c'est très important d'avoir un animal en EHPAD. Ça permet d'avoir une activité, donc ça permet un lien social parce qu'on sort avec son animal, donc on rencontre du monde. Donc ça aide aussi contre les états dépressifs, ça apaise.
Je vais citer une étude parue en 2017 dans Scientific Reports, étude suédoise, qui dit qu'être propriétaire d'un chien réduit le risque de mortalité de 20%. À la fois pour le support social et l'activité physique, ça représente. Valérie Chansigaud, je vous vois un peu hocher la tête.
Oui, 20%, ça me paraît quand même assez du freestyle en termes d'avancées scientifiques. Ça mériterait.
En tout cas, ça serait très bénéfique, notamment pour réduire les risques cardiovasculaires.
Ça, c'est très possible. Mais que ça soit chiffrable, ça, j'ai quand même quelques doutes.
Mais est-ce que vous contestez pas quand même les bienfaits que peuvent apporter?
Non, je conteste absolument pas. C'est vraiment. Il faut comprendre que la personnalité humaine s'est toujours construite dans un rapport à l'animal, qu'il soit sauvage ou domestique. Donc c'est normal qu'on retrouve aujourd'hui dans nos sociétés une place aussi importante offerte aux animaux. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue que l'amour qu'on peut porter à ces bêtes peut se révéler, dans certains cas, assez néfaste. pour les bêtes en question. Soit parce qu'on va les instrumentaliser pour organiser des combats ou je sais pas quoi, soit parce que ça devient une sorte de poupée vivante qu'on va habiller, déguiser, etc.
Ça, on va en parler dans un instant. Ouais.
Soit éventuellement la création de certaines races qui ont des problèmes physiologiques à cause de la morphologie. On peut penser aux chiens qui ont une face, un nez extrêmement écrasé, qui ont souvent des problèmes respiratoires. Et on peut s'interroger sur le plaisir que l'on tire d'avoir un animal d'une telle apparence, alors même qu'il peut souffrir de l'apparence qu'il a.
On a justement Marie qui nous écrit là-dessus sur l'application France Inter. Si on aime vraiment l'animal, elle dit d'abord, et qu'on ne le considère pas comme un objet, d'abord on l'adopte. L'achat relève d'un acte égoïste de l'homme qui souhaite un animal de race, pour sa beauté notamment. Quand on voit les dégâts, donc elle rebondit sur ce que vous venez de dire, Valérie Chansigaud, quand on voit les dégâts de la sélection des races brachycéphales, boxeurs avec cancer multiple, etc., c'est une honte. Angélique James, il y a des dérives de ce point de vue-là aujourd'hui. On rallonge des teckels qui ont du coup des hernies discales.
Moi, je ne connais pas d'éleveurs qui font ça. Oui, ça existe. Mais après, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pourra jamais empêcher les gens d'avoir envie de telle ou telle race, en fait. Donc,
Comment, dans la profession, on s'interroge là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, alors, il y a ces fameux chiens que les Anglais, je crois, appellent les toy dogs, hein, ceux qu'on met un peu dans le sac à main, ceux, je le disais tout à l'heure, qu'on peut éventuellement promener en poussette. Est-ce qu'à un moment, alors je veux bien que ce soit évidemment vos affaires, votre commerce, mais est-ce qu'à un moment, vous vous interrogez pas entre vous à dire ça, en fait, il faut qu'on stoppe, quoi. Faut pas qu'on le fasse parce que sinon, après, il n'y a plus de limite.
Enfin, dans les animaleries, déjà, on ne vend plus de chiens. Vous savez que la loi est passée, on ne peut plus vendre de chiens et de chats en animalerie à partir
Oui, mais par exemple, les races dont va parler Valérie Chansigaud et nous parle Marie, les carlins, les bulldogs français qui ont des vrais problèmes avec leur cloison nasale, qui en souffrent.
Oui.
Ça. Mais est-ce que vous vous interrogez là-dessus?
Oui, on s'interroge là-dessus, mais vraiment, nous, on n'a pas d'éleveurs. Enfin, il y a très peu d'éleveurs qui travaillent ces races et avec qui causent des problèmes. Il n'y a pas d'abandon de carlin ou de bulldog français, en tout cas.
Encore une fois, là, je ne vous parle pas d'abandon. Je parle de vous dire, est-ce qu'en fait, il faut continuer vraiment à élever ces chiens-là, tout simplement?
Ça n'engage que les personnes qui pensent qu'il y a une vraie souffrance, etc. Mais les gens qui possèdent des bulldogs français et des carlins sont très heureux et ce sont des chiens qui ont l'air très heureux aussi.
Sandrine Veltman.
Ce qui me semble moins important à apporter à la connaissance peut-être des auditeurs, c'est le secteur de la protection animale est un secteur qui est extrêmement peu référencé en littérature, en fait. Et donc, cette question des bonnes pratiques, de la manière dont on s'interroge collectivement et dont on formalise des bonnes pratiques, est assez peu répandue. Et donc, effectivement, finalement, je ne vous rassure pas, malheureusement, on en a quand même un certain nombre qui arrivent en refuge. D'abord parce qu'en problème de santé, les gens ne peuvent pas les abandonner. Des fois, ils ne peuvent pas payer les soins. Donc en fait, la seule solution qu'il leur reste, c'est de les abandonner en refuge. Donc on en a quand même malheureusement. Mais que cette question, elle doit être portée sur un plan non plus seulement du marché et de ce que ça représente. Quand même, le marché animal en France, c'est 5 milliards d'euros. Donc on ne parle pas de rien. Mais simplement, il doit être porté de manière très forte par une conviction sur la protection animale. Comment est-ce qu'on fait pour effectivement s'interroger collectivement de ce qui est possible ou pas?
Mai Chan-Kung, vous pouvez réagir à ce que disait Valérie Chansigaud tout à l'heure sur le fait d'habiller notamment les animaux, de les mettre en l'occurrence sur Instagram, ce que vous faites avec votre chien Malcolm, dont je crois qu'il a 100 000 abonnés, c'est bien ça. Est-ce que quelque part vous avez l'impression de le respecter en faisant ça?
Alors, tout à fait, parce que Malcolm n'est absolument pas déguisé, humanisé. Je disais tout à l'heure que c'est un membre à part entière de la famille. Je le considère pas comme un bébé, vraiment comme un animal. C'est la meilleure façon de le respecter, c'est de le considérer comme un animal et respecter ses besoins fondamentaux. C'est juste la base. Aujourd'hui en France, l'anthropomorphisme, donc déguiser, humaniser des animaux, c'est quelque chose qui est quand même très très mal vu. L'hypertype aussi. On parlait juste avant de l'hypertype avec les races brachycéphales, les membres déformés et les maladies suivies à cause de ces reproductions. Ça aussi, on est contre. Mais en revanche, oui, mais non, je respecte totalement Malcolm, il n'est pas contraint, et je pense que ça se ressent.
Mais ça veut dire que votre agence, qui est quand même spécialisée là-dedans, elle n'encourage pas quelque part à se servir de son animal pour vendre quelque chose et donc se faire de l'argent aussi sur son dos?
Alors, évidemment, on sélectionne les influenceurs, on les connaît. Notre force aujourd'hui à l'agence YLG, c'est de connaître ce secteur animalier et donc les comptes animaliers influents, et de sélectionner de façon la plus bienveillante, parce qu'évidemment, on travaille avec des animaux. Et encore une fois, les respecter, c'est en fait... c'est faire des choix éthiques, de faire des vrais choix, des vraies sélections pour respecter tout ça.
Mais c'est un vrai phénomène, hein, je vais citer. Alors moi, j'ai découvert ça hier soir, je vous avoue, j'étais à la fois subjuguée et totalement ahurie. J'ai découvert les comptes Instagram de Gif Pomme, c'est le plus suivi, c'est un petit spitz nain, vous savez, les petits chiens tout mini là, qui ressemblent à des petits lions. Il a presque 10 millions d'abonnés, alors lui, il est habillé dans tous les sens, il est mis en scène, etc. Il y a aussi un carlin, Doug the Pug, et Nala Cat, donc un chat, elle vaut 100 millions de dollars, Valérie Chansigo. Comment vous réagissez? C'est un vrai phénomène mondial. Aujourd'hui, c'est Petfluencer.
Oui, c'est, encore une fois, le rapport à l'animal peut pas, souvent, ne peut pas être distingué du rapport aux autres êtres humains. Que ça soit, encore une fois, sur le temps long ou juste à notre époque, ce qu'on observe comme rapport à la fois d'affection ou de brutalité, de domination, de soins ou de maltraitance, c'est quelque chose qui n'est pas séparable. Il n'y aurait pas un domaine qui affecte les animaux ou qui affecterait les êtres humains. C'est une sorte de continuum où effectivement l'utilisation, l'instrumentalisation qu'on peut faire subir ou qu'on accepte de subir soi-même ou qu'on fait subir à des êtres humains, bah, c'est normal qu'on retrouve aussi de temps en temps des bêtes. C'est pas étonnant.
Alors dans
c'est le même type de phénomène.
Dans les animaux stars, il y en a une dont on a beaucoup parlé, c'est Choupette, le chat de Karl Lagerfeld, qui était officiellement sur son testament. On a retrouvé une archive de Karl Lagerfeld qui en parlait en 2017 sur la chaîne américaine CNBC. Et écoutez l'amour qui ressort vraiment de sa relation avec Choupette.
Je n'aurais jamais pensé que je pourrais tomber amoureux d'un animal comme ça. Vous devriez la voir, vous tomberiez instantanément amoureux d'elle car elle est incroyable. Je pense être devenue une meilleure personne. Elle m'a donné quelque chose de magique qui fait que je comprends les Égyptiens d'il y a 4000 ans avant Jésus-Christ. Pour eux, le chat était l'animal le plus important et je comprends ça. Elle me donne de l'énergie, c'est très étrange.
Angélique James, est-ce que finalement la vertu de ces animaux de compagnie, c'est comme le disait Karl Lagerfeld, de faire de nous de meilleures personnes?
Oui, enfin après, Karl Lagerfeld était un homme bien sous tout rapport et avec les êtres humains, il était exceptionnel. Donc je trouve que ça ne me choque pas en fait qu'on porte son animal à une place aussi importante quand on fait aussi le bien pour l'être humain à côté.
Et vous disiez tout à l'heure, nos animaux vont très bien, ils sont très heureux, etc. Cette notion, Valérie Chansigo, de croire que notre animal est super heureux, finalement, on peut jamais vraiment le vérifier, puisqu'il s'exprime pas, en tout cas avec notre langage.
Alors, quand on connaît bien un individu, je dirais, un animal individuellement, on peut détecter assez facilement, d'ailleurs, les vétérinaires, les comportements mentalistes le savent bien, des comportements qui montrent un stress, une douleur, une souffrance. Donc il y a quand même des façons de le voir, de le mesurer. Et d'ailleurs, les personnes qui reçoivent dans les refuges des animaux dont ils ignorent tout, très vite, en fait, on arrive à situer un petit peu ce genre de choses. Après, il faut bien voir que le rapport est quand même très 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 asymétrique, c'est-à-dire c'est nous qui décidons de la vie, du destin, de la mort de ces bêtes, c'est rarement l'inverse. Et ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. On n'est pas dans un rapport symétrique. C'est pas parce qu'on aime la bête qui est à côté de nous, qu'on est dans un rapport identique.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de chat ou de chien qui serait le maître d'un humain, en l'occurrence.
Pas au sens littéral du terme.
Parce qu'il peut y avoir quand même ce genre de relation. C'est-à-dire qu'à un moment, Sandrine Veltman, où on est tellement attaché à son animal, quelque part, il va presque un peu nous mener nous par le bout du nez, non?
Alors certainement, la question toujours, c'est que j'y reviens sans arrêt, mais parce que je crois que c'est le fond du problème. La question, c'est quelle relation sommes-nous prêts à avoir avec notre animal? Une relation qui, pour le bonheur de l'animal ou pour son bien-être en tout cas, j'ose aller jusqu'au bonheur, doit être forcément équilibrée. Qu'est-ce que c'est qu'une relation équilibrée? C'est une relation qui répond à notre besoin. Donc la question, c'est à partir de quand on sait suffisamment de choses pour savoir quel est le besoin de l'animal qui, comme vous l'avez très justement dit, ne s'exprime pas? au moins en parole, parce que effectivement son comportement général peut nous amener à avoir des indications de lecture assez clés sur ce qu'il est en train de ressentir. Mais effectivement, tant qu'on ne comprendra pas qu'un animal, il faut le bien connaître son besoin pour pouvoir y répondre de manière équilibrée et du coup nourrir une relation équilibrée, on sera dans l'erreur en fait.
Un message de Françoise sur le mail du débat de midi. La SPA m'a proposé une bâtarde moche. Elle est très gentille, elle est très facile. J'en suis extrêmement contente et elle a l'air heureuse. Tant mieux pour elle. Philippe, lui, a une question qui va vous intéresser, Angélique James. Il voudrait savoir comment sont surveillés les éleveurs. Que font-ils des animaux qui ne trouvent pas de maître dans le délai raisonnable avant que le chien ou le chat soit adulte? Est-ce qu'il a une licence également? Il voudrait savoir.
En fait, la plupart des éleveurs trouvent toujours preneur. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, la base, tout vient de la base, c'est-à-dire de la cession de l'animal ou de l'adoption. Comment c'est fait? S'il y a bien eu le message de sensibilisation? Si l'animal correspond vraiment aux attentes du propriétaire. Et il n'y a pas de chien qui reste sur le carreau.
Il n'y a pas de surplus de stock.
Non. Jamais. Mais après, j'en reparlais pour vraiment lutter contre les abandons. La seule chose qui serait à faire, c'est que si tous les animaux sont stérilisés et qu'il n'y a plus de reproduction, il ne devrait plus y avoir d'abandon.
Alors justement, la stérilisation des chats, en tout cas, ça n'a pas été inscrit dans la loi dont on parlait tout à l'heure, Sandrine Weltmann. Pourquoi? Vous le savez?
Pourquoi? Parce que à partir du moment où on l'oblige, il faut avoir les moyens de le faire. Et tout ça coûte beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'un couple de chats en 4 ans peut engendrer 20 000 descendants, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, effectivement, cette question-là, elle est majeure. Et pour l'impact écologique, même si sans doute on en parlera après, parce que c'est important. Et pour le fait que, de toute façon, on ne peut pas laisser la situation perdurer. Or, la question, c'est bien sûr tout cela a un coût. Et effectivement, il faut qu'on arrive à se dire que toutes ces actions-là ont un coût. Je reviens juste, Angélique, sur la question d'effectivement, en élevage, cette question de l'achat et donc cette question de la relation en achetant un chien. Effectivement, je partage le fait que un certain nombre d'éleveurs, et heureusement, ça fait partie du métier, ont effectivement l'ambition de bien conseiller les personnes, que les personnes partent avec le bon chien, parce que de toute façon, elles y sont forcément attachées, puisqu'elles l'ont vu naître et elles l'ont élevé. La question quand même est que tous les surplus qu'on appelle tous ces animaux de réforme, finalement, il va bien falloir un moment savoir ce qu'on en fait, et je trouve que tous ces débats doivent être portés sur la place publique.
Vous vendez combien d'animaux par an, le PRODAF, le syndicat des professionnels
Alors,
de l'animalerie?
Alors, dans l'animalerie, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est 1,5% du marché de l'animal.
Mais ça fait combien d'animaux, d'individus
8000 chats, 12000 chiens, 12000 chiens.
Par an?
Oui, c'est une goutte d'eau et c'est de moins en moins, puisque de toute façon, la loi étant passée, il y a déjà eu un impact et il n'y a pratiquement plus de chiens et chats en animalerie.
Allez, Dominique nous écrit qu'il a 2 carlins comme compagnons adoptés à la SPA, donc il y en a aussi des carlins à la SPA. J'ai parfois la sensation d'être leur humain de compagnie et non l'inverse. On fait une petite pause et on revient donc pour parler justement, vous l'évoquiez Sandrine Weltmann, des problèmes du quotidien, les problèmes des chats en particulier, les conséquences écologiques. C'est le débat de midi, c'est France Inter et c'est sa playlist.
Bye.
solitaire, c'était Donna Blue.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Domestiqué il y a seulement 9000 ans, le chat a hérité de quantités de progrès évolutifs destinés à en faire une machine à tuer. Aux quatre coins du monde, ses victimes sont de plus en plus nombreuses. La présence de ce carnivore serait même dévastatrice pour nombre d'animaux en voie de disparition. L'Union internationale pour la conservation de la nature, principale sentinelle de la biodiversité dans le monde, a classé le félin parmi les espèces les plus agressives et nuisibles. C'est sur les traces de ce tueur si mignon que nous vous emmenons.
Documentaire « Le chat, ce tueur si mignon » sur Arte en 2019. Nous sommes toujours en compagnie d'Angélique James, directrice du PRODAF, le syndicat des professionnels de l'animal familier, de Sandrine Veltman de la SPA, de Valérie Chansigo, historienne des sciences et de l'environnement, et de vous, Mai Chan Kung, avec votre chien pas très loin, Malcolm. Est-ce que vous saviez ça, tiens, Mai Chan Kung, que les chats avaient en particulier un énorme impact sur d'autres espèces?
Oui, oui, tout à fait. Ils sont un peu considérés comme des nuisibles.
Oui, et qu'est-ce que vous avez à en dire? Est-ce que vous vous dites qu'il faudrait plus contrôler les chats? Donc on le disait, c'est 15 millions de chats en France, ils étaient que 10 millions, ils sont passés de 10 millions à 15 millions en 10 ans, donc c'est une croissance exponentielle.
Ah, alors 15 millions dont 8 millions ne sont pas identifiés. Hein.
Oui, mais dans tous les cas, il y en
c'est
a...
Ça, c'est le problème, c'est la stérilisation aujourd'hui. Voilà. Parce qu'en effet, les chiffres ont été cités tout à l'heure. Et en effet, un couple de chats peut reproduire de façon impressionnante. Et aujourd'hui, c'est ça qui pose problème.
Si on veut lutter contre l'abandon aussi, il faut obliger la stérilisation. Nous allons lancer la journée nationale de l'aide à la stérilisation. Le PRODA va le faire avec le ministère de l'Agriculture et l'AMF. Parce que les mairies aujourd'hui ne sont pas obligées, c'est vrai, de faire stériliser leurs chats. Ils doivent le faire, mais ils ne sont pas obligés. Ça devrait être une obligation.
C'est un vrai souci, Sandrine Veltman.
En fait, la question, c'est aussi toute la représentation qu'on a de la stérilisation. Je pense en France, effectivement, je ne peux que partager ce qui a été dit, c'est-à-dire que la stérilisation est la réponse au problème, puisque effectivement, cette question ne peut pas continuer comme ça. Il faut savoir que souvent, quand on interroge des vétérinaires sur pourquoi les maîtres ne souhaitent pas faire stériliser leurs chats, ils disent souvent c'est parce qu'en fait, ça va les mettre en mauvaise santé. Ce n'est pas vrai. Ça augmente plutôt leur espérance de vie même. Et de fait, c'est important cette stérilisation, puisque un chat, c'est un animal territorial qui a besoin de vivre sur un territoire. Et donc, si on le stérilise et qu'il vit en fait sur son territoire, en fait, on finit par éteindre, en tout cas, sa descendance.
On a un message de Dominique sur l'application France Inter. J'ai pas de chat, je chasse régulièrement les chats de mes voisins pour préserver les nids d'hirondelles dans ma grange. C'est un souci réel. On l'entendait dans l'extrait du documentaire d'Arte, Valérie Chansigo.
Oui, c'est un vrai problème. Alors, bien sûr, ça serait faux de présenter le chat comme l'unique problème écologique en termes d'animaux domestiques. Les chèvres, les cochons introduits sur certaines îles, par exemple, ont eu des impact absolument redoutable et dévastateur sur la biodiversité. C'est pas la seule espèce. C'est l'ensemble des espèces transportées par l'être humain qui ont un impact sur la biodiversité. Mais dans notre pays, c'est vrai que le chat réduit considérablement les populations d'oiseaux lorsque l'environnement convient à la présence de chiens, comme les zones périurbaines, par exemple, les pavillons, etc. Et j'ai un ami entomologiste qui me disait, un peu en plaisantant, que lui, il voyait ça plutôt d'un bon œil, parce que ça augmentait la population d'insectes. Parce que comme ça diminuait la quantité d'oiseaux insectivores...
Il y a plus d'insectes, oui.
Il y a a priori plus d'insectes. Je ne suis pas sûr que ça ait été totalement vérifié, mais c'est
en tout cas, l'UICN, donc l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, met quand même une alerte, évidemment, sur la prédation des chats. Allez, on les réhabilite un petit peu avec ce témoignage de Marie par mail qui nous parle de Suzette, sa meilleure amie, sa confidente. Elle me fait comprendre qu'elle capte bien les émotions, parce que quand j'ai eu le Covid, elle nous écrit, elle m'a pas quittée alors qu'il faisait beau et qu'elle aurait pu être dehors à gambader. Autre problème que posent nos chers animaux, en tout cas pointé par beaucoup d'auditeurs, j'ai énormément de messages là-dessus, alors c'est compliqué de les lire parce que j'ai trois feuilles derrière moi, mais la nourriture pour chiens et chats, l'impact
environnementale de cette nourriture. Angélique James, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus?
Ben, le marché du pet food est exponentiel. Enfin, on est à 5 milliards cartes au niveau du marché de l'animal de compagnie. Le pet food n'a jamais aussi bien marché. Il évolue chaque année de plus 8%.
Donc le pet food, c'est composé majoritairement de viande en particulier?
Ah non, maintenant vous avez...
De farine de poisson
Vous avez de tout dans le pet food. Hein. Le bio marche très très bien. L'insecte marche très très bien.
Alors, on a Charles qui nous... écrit, je suis en train de regarder les messages. Un chat consomme environ 90 grammes de viande par jour, soit presque 33 kilos par an. 15 millions de chats en France consomment donc chaque année près de 500 millions de kilos de viande. Est-ce qu'on a les moyens de nourrir autant de chats, Sandrine Veltman, au niveau de la... Même il y a des farines de poisson, je crois, qui sont
en fait,
utilisées.
Vous voyez bien que tout ça est une question d'équilibre global et que là, dans la manière dont on a pris le problème, en fait, la course à la course à l'échalote sur le nombre, etc., ne nous permet pas de régler le problème. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment des questions sur l'alimentation. Quelle est la bonne alimentation? Comment on répond bien aux besoins? Comment, dans ce marché pet food, comme vous le dites, Angélique, quelle est la part du marketing? Quelle est la part, d'ailleurs, de la qualité de l'alimentation? C'est une question, nous, à l'ASPA, à laquelle nous sommes très sensibles et sur laquelle nous travaillons, parce que je pense qu'effectivement, même les formules nutritionnelles doivent être étudiées plus largement, de manière plus drastique, pour essayer de répondre vraiment aux besoins de chaque espèce, effectivement.
Et puis, il faudrait préciser que la nourriture pour animaux est un sous-produit de la production de nourriture pour être humain. On n'a pas des élevages de vaches, de cochons, de poulets quelque part, uniquement pour nourrir des bêtes. C'est des sous-produits. C'est-à-dire ceux
qui... Il n'y a pas des élevages d'insectes qui sont faits exprès pour nourrir des animaux? Moi, je crois que
oui. Oui, mais pas des animaux de compagnie. C'est essentiellement des élevages qui sont faits pour nourrir, en fait, pour fournir des farines animales destinées soit au bétail, soit à la pisciculture.
Bon, alors sur les problèmes, je continue la liste des réclamations. Alexis nous écrit, je dis stop aux animaux de compagnie. Ça met des poils et surtout, ça fait caca partout. Alors le problème des crottes, notamment en ville des chiens, Angélique James, on en rigole, mais c'est un vrai problème aujourd'hui.
C'est un vrai problème, mais je trouve que les mentalités ont également évolué. Maintenant, vous voyez tout le monde avec son petit sac. Il y a aussi beaucoup de poubelles avec des sacs dans les villes. Tout dépend de la politique de la mairie, c'est toujours pareil.
Et le problème, c'est quoi? C'est pas le chien, finalement?
Mais c'est un devoir civique, ouais. C'est le maître. C'est le maître qui doit penser aux autres et évidemment ramasser les selles de ces animaux.
Mai Chan Kung, est-ce que vous faites attention à ça? Et vous prenez des réflexions, parfois, en promenant votre chien du côté de Bordeaux?
Alors absolument jamais, hein, parce que justement j'ai tout ce qu'il faut pour ramasser en effet, et c'est important de le faire parce que aujourd'hui à Bordeaux on est sur une ville qui est quand même dog friendly. C'est agréable de vivre à Bordeaux avec un chien et pour qu'il puisse cohabiter avec nous et continuer que la mairie annule tout ça, c'est important de respecter en effet.
Sandrine Veltman là-dessus.
Là-dessus, je ne peux là encore que partager, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, le chien, il peut pas aller aux toilettes, hein, donc il faut bien s'occuper éventuellement aussi de ramasser ses excréments, bien sûr.
Valérie Chansigo, finalement, tous ces petits conflits, ces petits problèmes de voisinage, est-ce que ça renvoie pas encore à la relation à l'autre, que ce soit à l'animal ou à l'autre humain qui nous entoure?
Il y a toujours eu des règles qui ont encadré la place des animaux depuis très longtemps, mais par exemple, au 19e, une bonne partie de ce qu'on connaît en termes de refuges, de ramassage des chiens errants, d'identification de leur maître, etc., était lié à un problème sanitaire, celui de la rage. Ça, on a oublié, mais la rage canine, qui est une maladie mortelle à 97%, posait des réels problèmes de santé publique. Et l'une des réponses a été d'encadrer de façon extrêmement brutale et sévère les chiens errants, qui étaient vus comme une menace potentiel, encore une fois, mortel, parce que la rage, c'est vraiment une maladie extrêmement grave. Et c'est vrai qu'une bonne partie de ce que l'on connaît aujourd'hui, la résultante, le fruit, l'héritage de cette tradition, d'encadrement, de gestion dans l'espace public d'animaux, à savoir, et en particulier, le chien. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau qui vient de fleurir parce que le nombre de chiens aurait augmenté depuis 50 ans. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une tradition assez longue.
Et par rapport à un phénomène là qui est en train d'apparaître beaucoup dans les villes, les fameux dog sitters, les babysitters pour chiens là qui les promènent, ça peut aussi créer des...
Ce métier s'est grandement développé également parce qu'il y a une forte demande. Il y a de plus en plus de gens qui ont pris effectivement des animaux après la Covid.
Oui, mais qui n'ont pas le temps de les promener. Alors pareil, je renvoie la question, à quoi bon avoir un animal si c'est pour même pas pouvoir le promener?
Alors il y a beaucoup d'entreprises là qui acceptent qu'on puisse venir travailler avec son animal, de plus en plus. Il y a énormément de télétravail, donc les gens sont chez eux. Donc ils peuvent, effectivement, ils ont besoin d'une compagnie, mais du coup c'est un service en fait, c'est comme un toiletteur, c'est un service qui s'est développé et qu'on encadre.
C'est pas forcément choquant, je veux dire, c'est une façon de faciliter cette relation à l'autre qui serait le chien. Si on a besoin de dog sitter ou de cat sitter, pourquoi pas, c'est pas un excès, c'est juste une façon de répondre à un besoin, aux besoins des animaux.
Mai Chan Kung, vous voulez réagir là-dessus rapidement?
Oui, parce qu'en effet, pour aider et contrer les abandons, justement, il y a des solutions de garde. Il y a le site typiquement Emprunte Mon Toutou qui permet des solutions de garde autour de chez nous, et ça, c'est extrêmement pratique.
Et Elisabeth nous écrit, elle a un message sur l'application. Avoir un animal de compagnie, c'est être riche, c'est un coût du temps, des soins. J'aimerais avoir un animal de compagnie, mais en tant qu'aide à domicile, mon budget ne me le permet pas. Ça coûte combien en moyenne, Angélique
James? C'est vrai que c'est un coût pour un chien. Il faut compter peut-être entre 800 et 1000 euros par an.
Oui, moi je dirais plutôt entre 1000 et 1500, et plutôt 1000 pour un chat. Il faut savoir qu'il y a 20 000 personnes qui dépendent directement ou indirectement de ce marché. C'est plutôt bien, puisque de toute façon, ça participe aussi à l'essor économique de la France, donc tout va bien. Mais c'est vrai que c'est un coût, et c'est pour ça qu'il faut une adoption responsable. Parce qu'en fait, quand on se prend un animal, on s'engage pour la vie, en fait.
Alors justement, avant de se quitter, on a lancé un mini-débat sur Twitter, comme tous les jours. Chien, chat, nac ou pas d'animal. Ce sont les chats qui l'emportent, 50% pour les chats. En deuxième position, pas d'animal, 26,3%. Ensuite, arrive le chien, 21,3%. Et alors, les nacs, pas trop de succès sur Twitter, 2,5%. Sandrine Veltman, si on veut adopter là, on peut aller dans les refuges SPA. Il y en a plein.
Ils sont ouverts. Ils vous attendent.
Et je signale 30 millions d'amis qui nous a écrit, qui a aussi lancé une plateforme pour éviter les abandons pendant cet été. Ça se passe sur nosvacancesentreamis.com. Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir été dans cette émission. Moi, demain, je vous retrouve même lieu, même heure. Alors, on parlera, on va même piquer un gros roupillon et quitter la Terre, l'hibernation humaine pour aller sur Mars. Est-ce que c'est fiction ou réalité? Très bon après-midi, les amis.